1917, Henri Roorda, le pédagogue n'aime pas les enfants. Il n'en meurt pas. La vie peut continuer longtemps dans des conditions très défavorables. Après des semaines de sécheresse, on voit quelquefois, sortant de la fente d'un vieux mur, d'étonnantes petites plantes, presque fraîches, dont l'obscur vouloir vivre n'a pas été découragé par la pierre avare où elles cherchent leur nourriture. Il y a une dizaine d'années, je rencontrais fréquemment un lamentable vieillard qui allait chaque jour, au bon moment, fouiller les boîtes à ordures dans les quartiers où demeurent quelques bourgeois prodigues. La misère et l'ivrognerie avaient fait de cet être une ruine chancelante. Eh bien, il n'est pas encore mort. Je l'ai revu hier. À peine plus branlant qu'autrefois, le malheureux retournait vers ses boîtes à surprises. Ces petites plantes tenaces, cet ivrogne et tant d'autres organismes, en partie détruits, dont le vœu opiniâtre est de durer, donne raison à ce père de famille qui, me parlant de l'école peu satisfaisante où il avait dû mettre son fils, concluait en disant « Je n'ai pas été plus favorisé que lui. Il n'en mourra pas. » Il faut le reconnaître, quelles qu'aient été les fautes commises par nos éducateurs, nous n'en sommes pas morts. Nous sommes encore là. On nous compte lorsqu'on fait le recensement annuel de la population. Et ça, c'est énorme. Non seulement les écoliers supportent le régime auquel ils sont soumis, mais s'ils en souffrent, c'est d'une manière bien peu apparente. Le bien qu'on leur fait est moins hypothétique. On leur apprend à lire, à écrire et à compter. Ils acquièrent, en outre, dans leurs leçons, des notions variées susceptibles d'émerveiller les gens simples. D'autre part, l'école décharge les parents 5, 6 ou 7 heures par jour du soin de surveiller leur progéniture. Elle donne des certificats flatteurs aux élèves studieux. Enfin, elle délivre aux jeunes gens le diplôme qui leur permettra de faire l'apprentissage de quelques professions plus ou moins lucratives. Pour exiger d'elle davantage, ne faut-il pas accorder aux choses de l'esprit une importance excessive? Les écoles actuelles peuvent donc compter sur l'approbation de beaucoup de personnes raisonnables. Elles peuvent compter aussi sur l'adhésion muette et distraite de nombreux citoyens qui ont à résoudre des questions plus pressantes ou plus attrayantes que le problème de l'enseignement public. Car la plupart des hommes s'intéressent peu à ce qui se passe dans le coin des enfants. N'y a-t-il pas quelque chose de rassurant, d'ailleurs, dans l'admirable ponctualité avec laquelle, chaque jour, aux mêmes heures, maîtres et élèves reprennent leur besogne? Tout se passe normalement. Et, de même qu'on remet ses lettres aux employés de la poste, il est conforme à l'usage de confier ses enfants aux spécialistes de la pédagogie. Il est donc probable que l'école conservera encore longtemps ses vieilles habitudes. En qualité d'administration de l'État, elle est à l'abri de toute concurrence sérieuse. C'est elle qui éduque les continuateurs de son œuvre. Enfin, en enseignant aux êtres jeunes ses propres vérités et ses propres vertus, l'école forme, dans une certaine mesure, le jugement de ceux qui, plus tard, pourraient la juger. Je me propose de montrer que les écoles d'aujourd'hui sont mauvaises et qu'on pourra les améliorer beaucoup dès qu'on le voudra réellement. Mais je me hâte de reconnaître la fragilité de cette thèse. D'abord parce que ma profession est d'enseigner. Je me fais sûrement une idée inexacte du rôle de l'école dans la vie sociale. en m'intéressant exclusivement aux effets possibles de l'éducation sur la conduite des individus, je néglige des influences dont le médecin, l'historien et l'économiste sauraient me faire comprendre l'importance essentielle. Et puis, même si le pédagogue pouvait exercer une action décisive sur la mentalité humaine, dans quelle direction devrait-il agir? On ne peut trancher une telle question qu'en souriant. Je le vois bien, dans mon argumentation, je ne pourrais appeler aucun absolu à la rescousse. Je devrais me contenter d'exprimer mon sentiment. Je renonce donc à apporter au lecteur la vérité. Ah, quel bon débarras! En disant du mal des écoles d'aujourd'hui, je vais sans doute exagérer, j'en avertis loyalement le lecteur. Et d'abord, en parlant de ces écoles, je ne mentionne que leurs défauts. Il n'en faudrait pas conclure que la vie y est intolérable. Depuis 25 ans, j'y passe chaque semaine des moments très agréables. Ceux qui y donnent des leçons sont de braves gens, et l'absurdité de nos méthodes d'enseignement est atténuée par le bon sens et par la bonté de ceux qui les appliquent. Les pédagogues que je connais diffèrent tous plus ou moins de celui que je combats, et il y en a qui ne lui ressemblent en aucune manière. Cela ne m'a pas empêché de dire « le pédagogue n'aime pas les enfants ». Il ne les aime pas assez, puisqu'il ne proteste pas contre le régime scolaire auquel ils sont soumis. D'autre part, en personnifiant les tendances détestables de notre vieille pédagogie, je les attaquerai avec plus d'entrain. Et puis, il me fallait un titre. Que ce soit bien entendu, je n'ai pas eu un seul instant l'intention de faire un tableau tant soit peu exact et complet de l'enseignement public à notre époque. Je proteste contre des habitudes que je déteste et j'essaie d'attirer sur elles l'attention de quelques personnes mal renseignées. Voilà tout. Le lecteur voudra bien compléter lui-même mes affirmations en disant « toutes les écoles n'ont pas ce défaut-là » ou bien « il y a un assez grand nombre d'écoliers qui souffrent beaucoup moins que ça de l'éducation qu'ils reçoivent. » Qui sait, il existe peut-être des enfants auxquels l'école ne fait aucun mal. Les questions qu'on veut résoudre sont toujours plus complexes qu'on ne l'imaginait. Ajoutons que l'influence de l'école n'est pas la seule influence que les enfants subissent. Cela pourra souvent induire en erreur ceux qui la jugent avec sévérité comme ceux qui la jugent trop favorablement. En somme, mes jugements ne feront qu'exprimer mes goûts. Si nous avions d'autres goûts, nous aurions aussi d'autres principes. Et à l'ordinaire, en luttant pour une idée, nous nous appliquons simplement à propager notre propre manière d'être. Par bonheur, nos goûts sont en même temps ceux d'un certain nombre de nos contemporains. En combattant la pédagogie traditionnelle, on n'est pas seul. Et je n'aurais probablement pas formé le projet d'écrire ce petit livre si je n'avais pas été fréquemment enthousiasmée par l'éloquence de tant d'écrivains anciens et modernes qui défendent l'enfant contre l'école. En réclamant, pour les écoliers, un régime moins débilitant. Je suis d'accord avec une minorité optimiste, sans mépris pour la nature humaine, qui craint qu'en façonnant trop bien la vie superficielle des êtres jeunes, on ne diminue leur vie profonde. Je l'ai reconnu, la pédagogie indiscrète, à laquelle les enfants d'aujourd'hui n'échappent plus, peut causer leur défraîchissement prématuré, sans constituer pour notre race un danger imminent. Je n'objecterai donc rien aux sceptiques et aux satisfaits qui me diront « l'humanité en a vu bien d'autres ». Mais ceux qui acceptent le nom d'éducateur ne peuvent pas se contenter de cette perspective que les fils seront dignes des pères. Par définition, ils doivent croire en un mieux réalisable, en un perfectionnement possible de l'être humain. Chez eux, un certain idéalisme est de rigueur. Et c'est précisément le désaccord qu'il y a entre les principes qu'ils sont décemment tenus de proclamer et les vieilles habitudes qu'ils conservent qui fait la force de leurs adversaires. Chaque année, ici ou là, devant le public sans méchanceté des grandes fêtes scolaires, des orateurs rassurants définissent en termes nobles la tâche du pédagogue. Mais celui-ci, fonctionnaire timide, inculque à ses élèves le respect et la docilité qui les pousseront toujours à faire comme les autres. Et ainsi, il rend encore plus incertain l'avenir meilleur vers lequel s'élancent les cœurs nouveaux. Il y a deux écoles. Ce n'est pas de l'école primaire et de l'école secondaire que je veux parler. Du point de vue où je me place, on ne voit pas entre celle-ci et celle-là une différence essentielle. Différence qui a peut-être existé autrefois. À peu de choses près, tous les écoliers sont soumis au même régime intellectuel. Je sais bien que les gens cultivés qualifient volontiers les autres de primaires. Mais ce dédain habile ne prouve pas d'une façon certaine leur supériorité. On rencontre aujourd'hui des primaires dans tous les mondes. Si j'ai bien compris, le primaire est un être porté à résoudre au moyen de règles simples toutes les questions qui se posent. En particulier, il croit, depuis son enfance, en l'efficacité souveraine de la règle de trois. Exemple. S'il en a payé 2,60 francs pour 4 kilos de cassonade, on paiera 0,65 francs pour 1 kilo. Et pour 7 kilos, on paiera 7 fois plus. Le 7e kilo de cassonade a la même valeur que chacun des précédents. Et cela justifie l'emploi du procédé classique. Mais, en abusant de problèmes de ce genre, on rencontre trop souvent des cas où la valeur d'une chose est directement proportionnelle au nombre des unités dont elle se compose, et l'on devient trop sensible au prestige de la grande quantité. Eh bien, dans les écoles secondaires d'aujourd'hui, tout se passe comme si la valeur intellectuelle des écoliers pouvait être calculée au moyen de simples règles de trois. Ces écoles sont ce qu'elles seraient si les organisateurs avaient fait d'abord ces raisonnements désarmants. Puisque un élève studieux qui a 4 professeurs retire de leurs leçons un réel profit, ce profit serait double s'il en avait 8. Le mérite d'un écolier qui a pu mettre sur sa feuille 30 dates historiques est 3 fois plus grand que le mérite de son camarade qui n'a pu en donner que 10. L'enfant s'instruira évidemment plus si on lui donne 7 leçons dans le courant de la journée que si on ne lui en donne que 6. Je ne connais qu'une école publique où l'écolier reçoit certains jours 8 leçons et, exceptionnellement, 9. Mais en songeant à l'avenir, je suis inquiet. Il existe sûrement quelque part des pédagogues ayant des marchandises à placer qui ont dû remarquer qu'il s'écoule beaucoup d'heures utilisables entre le moment où les enfants se lèvent et le moment où ils se couchent. Or, la quantité de travail accompli est directement proportionnelle au temps employé, parbleu. Exemple. Une fontaine a rempli le tiers d'un bassin en 4 heures. En 12 heures, elle remplira donc tout le bassin. Le fait est que les programmes scolaires se sont développés à la manière de certaines pierres, dont le volume augmente parce que des particules de sable viennent s'attacher à leur surface. Pour les ramener à leur état primitif, il suffirait de les racler. C'est dans les bureaux de l'État que la différence entre l'école primaire et l'école secondaire apparaît nettement. Ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui s'occupent de l'une et de l'autre. À chacune, on consacre des registres particuliers. Et l'on ne met pas dans les mêmes cartons les papiers qui concernent celle-ci et les papiers qui concernent celle-là. Mais celui qui rêve de mettre plus de clarté et plus de chaleur dans l'âme de l'enfant peut-il croire en la réalité de toutes ces paperasses? Pourquoi différencier prématurément deux écoles, puisque le hasard réunira dans l'une comme dans l'autre les intelligences les plus fines avec les plus grossières? Si l'une vaut mieux que l'autre, ne gardons que la meilleure des deux. Les enfants très jeunes ont les mêmes besoins fondamentaux, et l'on pourrait, pendant quelques années, les soumettre tous à un même régime fortifiant, je ne dis pas à la même contrainte. Les parents n'ont pas toujours la possibilité de choisir entre nos deux enseignements. Et s'ils doivent choisir trop tôt, ils se trompent souvent. Il existe des écoles préparatoires où l'on met des petits garçons âgés de 7 à 8 ans, déjà destinés à entrer plus tard au collège. Or, si M. Nicolas tient à ce que ses deux fils fassent leurs humanités, c'est pour une raison bien baroque. Il est riche. Et pendant des années, il fera toutes les dépenses nécessaires pour être un jour le père d'un médecin et d'un docteur en droit. J'ai connu de malheureux garçons, dociles et bornés, dont on avait vainement essayé d'affiner l'esprit en leur donnant 2000 leçons de latin. Il y a deux écoles. Premièrement, l'école proprement dite, qu'on appelle aujourd'hui primaire ou secondaire, où tous les enfants vont pour commencer. Deuxièmement, l'école spéciale ou professionnelle, où l'on entre plus tard et où tous les élèves font un même apprentissage déterminé. Chaque école spéciale sera par exemple une école de médecine ou une école d'horlogerie ou une école de droit ou une école de commerce ou une école de dessin ou une école dentaire. On comprend que dans une telle école, tous les élèves se livrent au même entraînement méthodique, qu'on propose à tous les mêmes travaux et que finalement, on exige de tous les mêmes connaissances techniques et un même minimum d'habileté. Les uns exécuteront plus facilement que les autres les exercices réglementaires. Mais les exigences du maître ne varieront pas avec leurs aptitudes respectives. En somme, c'est sa science de spécialiste, ce sont ses propres talents, ses propres tours de main qu'il s'efforce de communiquer à tous ses élèves indifféremment. Si les goûts de l'un de ceux-ci sont trop fortement contrariés par cette discipline uniforme, qu'ils s'en aillent. Car il y a des règles concernant la résistance des matériaux que doivent connaître tous les futurs constructeurs de ponts. Il faut exiger aussi de tous les élèves d'une école d'horlogerie qu'en dépit de leurs tendances individuelles, ils fabriquent un jour des montres marchant d'accord. Et je trouve bon que l'on interdise aux jeunes gens qui étudient l'art dentaire une originalité excessive dans la manière d'arracher les dents. Mais c'est de la première école que je veux parler, de celle que j'appellerais simplement l'école, et dont on oublie trop souvent l'un des caractères essentiels. Dans cette école-là, le maître s'adresse à des enfants qui exerceront par la suite les professions les plus diverses. Sans doute l'école secondaire s'offre à un public plus restreint que celui où l'école primaire recrute ses élèves. Il n'en est pas moins vrai que dans les gymnases classiques, Par exemple, en dépit des triages antérieurs, les mêmes leçons, à peu de choses près, se donnent à de futurs médecins, à de futurs théologiens, à de futurs ingénieurs, à de futurs avocats, à de futurs chimistes, à de futurs pédagogues. Et mon énumération n'est pas complète. L'école doit donc se demander, est-ce que la science que j'enseigne a une valeur générale? Est-ce que chacun de mes élèves, s'il est zélé, retirera un réel profit des leçons auxquelles il est tenu d'assister? Si elle était scrupuleuse, elle se demanderait encore, existe-t-il des moyens meilleurs que ceux que j'emploie pour instruire et pour fortifier ses enfants? À l'école, l'enfant apprend à lire, à écrire et à compter. Cela est fort bien. Mais il suffirait de retenir l'écolier de 8h à 10h du matin, 7 ou 8 ans de suite, pour lui enseigner cette science rudimentaire. Or, l'école veut occuper dans notre vie une place beaucoup plus grande. Elle veut richement meubler les chambres de notre mémoire. Elle veut nous apprendre à penser. Elle veut réformer notre caractère. Elle veut nous moraliser et faire de nous de bons citoyens. Elle a même la prétention, en dépit des apparences, d'assouplir et de fortifier nos muscles. Elle veut tout faire. Et comme cela exige beaucoup de temps, elle nous prend presque toute notre enfance. Elle nous immobilise durant des milliers d'heures, dans l'attitude de l'écolier qui écoute ou qui fait semblant. En hiver, quand les journées sont courtes, l'enfant, s'il est zélé ou craintif, ne peut songer du matin au soir qu'à ses devoirs envers l'école. Et en été, son insouciance n'est pas beaucoup plus grande. Il a peut-être une mère ou un père clairvoyant dont la sollicitude inquiète pourrait le protéger contre le zèle indiscret du pédagogue. Mais il ne suivra pas leurs conseils, car il doit consacrer tout son temps à l'accomplissement de ses tâches réglementaires. On ne saurait trop exiger de l'école d'aujourd'hui. Si elle a pour devoir de favoriser le développement physique, intellectuel et moral de l'enfant, c'est pour cette raison bien simple qu'elle empêche les autres de le faire. Sa responsabilité finit par croître beaucoup plus rapidement que le nombre des heures durant lesquelles elle enferme ses élèves. Et quand elle les enferme trop longtemps, elle leur prend quelque chose de plus précieux que tout ce qu'elle leur donne. Donc, ici, nous ne sommes plus à l'école professionnelle. Ici, en face de son maître, l'écolier n'est plus celui des deux qui doit comprendre l'autre. Il ne s'agit plus d'enseigner à tous les élèves les mêmes procédés et les mêmes formules. Il faut fournir à chacun d'eux l'occasion d'améliorer ce que la nature lui a donné de bon. Car chacun d'eux, en qualité d'être humain, a des aptitudes précieuses dont on pourrait favoriser le développement. Or, tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Ils ne peuvent pas progresser tous de la même allure. Très raisonnablement, on veut que la table de multiplication soit la même pour tout le monde. Je consens encore à ce qu'un accord parfait se fasse sur l'orthographe de tous les mots simples, et aussi, si cela ne coûte pas trop cher, sur l'orthographe de quelques mots difficiles. Enfin, il est admissible que, dans certaines leçons, tous les écoliers fassent la même chose. Mais à côté de ce domaine, où l'instruction peut être obligatoire et uniforme, n'y en a-t-il pas un autre où la diversité et la liberté doivent être admises? Si un jeune collégien dessine avec plaisir, faut-il absolument l'empêcher, durant les milliers d'heures qu'il passe en classe, de dessiner plus fréquemment que son camarade, dont le seul désir est d'aller s'étendre tout nu au soleil, au bord du lac. Si des enfants du même âge diffèrent profondément par la finesse plus ou moins grande de l'intelligence, par la qualité de la mémoire, par leur caractère physique, par leurs goûts, leurs défauts et leurs aptitudes de toutes sortes, est-il indispensable qu'ils absorbent simultanément, plusieurs années de suite, le même nombre d'empereurs romains, de dates historiques, de règles de Troie, de silicates doubles, de théorèmes, d'écrivains classiques, d'équations du second degré, de montagnes suisses et de villes lointaines? J'imagine qu'on a rendu l'instruction obligatoire afin que chaque citoyen sache lire et écrire. Mais l'école, qui est maîtresse chez elle, impose à tous ses élèves l'étude de tous les sujets qu'il lui plaît de mentionner dans ses programmes. Le fait est là. Un père de famille n'a pas le droit de supprimer un ou deux plats dans le menu invariable que des pédagogues ont composé pour le repas spirituel de ses enfants. S'il tient à ce que son fils ne reçoive que 3 ou 4 leçons par jour, on lui fera des objections décourageantes. On lui dira peut-être, s'il s'agit d'une école secondaire, « Dans ce cas, vous paierez plus cher, comme au restaurant quand on mange à la carte. » Et ainsi, sauf de rares exceptions, la règle est unique. Il faut tout avaler. Ce père pourrait, il est vrai, mettre son enfant dans un autre établissement, mais il y trouverait la même uniformité. Ajoutons que le jour de l'examen final, on repince tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre au régime commun. Le principe de ceux qui enseignent apparaît clairement. La dose de science que nous inculquons à l'écolier, dans un temps donné, ne doit pas dépendre de la qualité de son cerveau. Ignorant systématiquement les aptitudes, susceptibles d'être cultivées, que ses élèves possèdent, le pédagogue, spécialiste inconscient, s'efforce de leur communiquer à tous son propre savoir et sa propre virtuosité. Il existe beaucoup d'écoles où les jeunes gens peuvent se spécialiser, mais nous n'avons pas encore celle où l'enfant pourra s'épanouir. Un coup d'œil dans les manuels scolaires. On dit souvent aux écoliers des choses utiles ou intéressantes. Il serait stupide de le nier. Mais pourquoi ne se contente-t-on pas de leur dire ces choses-là? J'ai là, sur ma table, un certain nombre de manuels scolaires. Je vais vous donner quelques-uns des renseignements que l'enfant y trouve. Voici d'abord un livre de géographie, dont on se sert dans les écoles de la Suisse française. Je l'ouvre à la page où l'auteur nous parle de l'Espagne. Un élève studieux a souligné au crayon les noms des 40 villes qui y sont énumérées. Les villes du Portugal viendront plus tard. Essayez, dans une nuit d'insomnie, de vous rappeler 40 noms de villes espagnoles. Vous verrez, ce n'est pas facile. Et il n'y a pas que les villes en Espagne. Et bien entendu, l'auteur parle de tous les pays du globe avec une égale sollicitude. Et il n'y a pas seulement la géographie dans les programmes scolaires. Et l'on devrait comprendre qu'il y a autre chose que l'école dans la vie de l'enfant. La seconde édition du même ouvrage est plus simple. Mais le genre étant admis, on n'y constate aucune lacune regrettable. Ah non! On y apprend que, dans les Alpes grisonnes, s'ouvrent vers le nord les vallées de Medels, de Lunetz, de Safien, de Domschlägg, de Schanfigg et de Pratigo. Que l'on mette ces noms dans les dictionnaires pour ceux que ça intéresse, c'est très bien. Mais importait-il vraiment d'en rendre la connaissance obligatoire? Connaissez-vous le Siau? Comme son nom l'indique, c'est une rivière qui sort du lac Balaton. Quant à moi, je n'oublierai plus ce nom imprévu. Il m'a rappelé la révélation foudroyante que la baronne de Brossarbourg fit un jour à son mari. « Monsieur, l'honneur des Brossarbourg est à tout jamais dans le Siau. » Mais soyons sérieux. Voici une règle d'arithmétique que je trouve dans un manuel destiné aux écoles primaires supérieures et aux écoles secondaires de jeunes filles en France. Une fraction décimale périodique mixte est égale à une fraction ordinaire dont le dénominateur est un nombre formé d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période, suivi d'autant de 0 qu'il y a de chiffres dans la partie non périodique, et dont le numérateur s'obtient en retranchant la partie non périodique du nombre conforme en écrivant la période à la droite de la partie non périodique. Tout simplement. Je ne citerai pas de théorème d'algèbre. Ils n'ont une signification claire que pour les initiés. C'est dire que beaucoup d'écoliers les débitent sans y comprendre grand-chose. Quelques faits historiques. Les Turcs durent signer, en 1669, le traité de Karlovitz, d'après lequel ils ne conservaient en Hongrie que le banat de Temesvar. Retenez ce nom, car il ne reviendra plus. Pendant la guerre de 7 ans, Frédéric II se fit battre à Kolyne, à Okirk et à Kunersdorf. La maison de Saxe s'éteignit en 1024. Quant au corsaire d'Huguet-Rouen, il mourut en 1736. Il devait d'ailleurs finir par là. Épaminondas mourut en 362 avant Jésus-Christ. Les écoliers, pour quelques jours du moins, savent qu'il exista un roi Attal et un roi Eumène. Quelle malpropreté ces messieurs ont-ils faite? On l'ignore sans doute, car le manuel ne nous fait connaître que leur nom. Et de même, tout ce qu'on sait du général spartiate qui bâtit Nicias, c'est qu'il était rusé et qu'il s'appelait Gilippe. Enfin, parmi les dieux des anciens Germains, le manuel cite Zieu et son copain, Donar. Mais si dans une prochaine édition l'auteur attribue ces noms à deux généraux japonais, les écoliers n'y perdront absolument rien. Arrêtons-nous un instant. Croyez-moi, il n'y a pas plus de sécheresse dans les renseignements que je vous donne que dans ceux du manuel. Les miens se suivent dans un ordre absurde. Voilà toute la différence. Il est d'ailleurs bien entendu que les quelques noms que je cite ne peuvent donner qu'une faible idée de la richesse du catalogue que les enfants étudient pendant des années. Encore une fois, je ne parle pas ici des conversations intéressantes que beaucoup de maîtres ont parfois avec leurs élèves. Je m'occupe seulement de ce que l'écolier trouve dans ses livres quand, le soir, il apprend sa leçon pour le lendemain. Car ces livres contiennent évidemment l'essentiel, ce qu'il faut retenir. Eh bien, parce que l'auteur est pressé, parce qu'il songe à tout ce qu'il devra dire encore, car il veut tout mentionner, il ne s'arrête pas devant les phénomènes pour les observer et les décrire. Il se contente, le plus souvent, de les nommer. L'élève studieux connaît les noms d'un grand nombre de personnages historiques qu'on n'a pas eu le temps de lui présenter, dont il n'a jamais entrevu la silhouette, mais dont on lui a remis la carte de visite. Au fait, en exposant dans son salon une coupe où s'entassent des cartes de visite nombreuses, ne prouve-t-on pas qu'on a beaucoup de connaissances? La question que je pose est bien simple. Vaut-il mieux fournir à l'enfant, en abondance, pendant des années, les étiquettes que les hommes ont mises sur les choses, ou bien s'arrêter patiemment avec lui devant des choses vivantes, étonnantes, émouvantes? Ne vous en allez pas encore. Il nous reste à jeter un coup d'œil dans l'admirable domaine de la science. Mais je dois d'abord réparer une omission. Vous ne lirez jamais la satire Ménipée. Il faut donc que vous puissiez nommer au moins l'un des auteurs de cette œuvre célèbre. Simple question de décence. L'un d'eux s'appelait Durand, Gilles Durand. Car il y a toujours eu et il y aura toujours des Durand. Et maintenant, occupons-nous un instant d'un enseignement animé d'un esprit scientifique et moderne. J'ouvre un manuel de botanique et je lis. Les rosacées se divisent en 6 sous-familles. Les amygdalées, les dryadées, les spirées, les sanguisorbées, les pommacées, les rosées. Là-dessus, ne voulant pas les faire attendre, l'auteur énumère tout de suite les familles suivantes. C'est la vieille plaisanterie qui continue. Pour les jeunes gens qui ont le bonheur de pouvoir consacrer beaucoup de temps à leurs études, cette plaisanterie dure des milliers d'heures. Je m'adresse aux personnes cultivées qui lisent les cahiers vaudois et je leur demande « Connaissez-vous le nom qu'on a donné aux fleurs mâles, des cupulifères et des jus glandés ? Pourriez-vous me nommer un seul carbonac orthorhombique, un seul ? Ne me citez pas la dolomie, qui est un carbonate rhomboédrique, très abondant dans le Tyrol. Que pouvez-vous me dire des péridots et des iules et des anatifs ? Faites attention, les uns sont des minéraux et les autres des animaux. Que fait-on des acétates d'alumine et de fer et de l'acide palmitique? Combien y a-t-il de foires annuelles à Francfort-sur-l'Oder? Il existe des écoliers zélés que ces questions n'embarrasseraient pas. Un dernier mot. Le sphène est un silicotitanate de calcium. Je vous parlerai de la crocozoïse une autre fois. Mon parti pris évident ne m'empêchera pas de reconnaître que beaucoup de manuels scolaires aujourd'hui contiennent des choses très intéressantes. Mais pourquoi en contiennent-ils tant d'autres ? Admettons que quelques-uns des noms que l'on veut fixer 20 ans à l'avance, dans la mémoire des écoliers, puissent un jour leur servir à quelque chose. Ne pourront-ils pas se les procurer dès qu'ils en éprouveront le besoin? À notre époque, les dictionnaires, les livres ne manquent pas. Et puisqu'on tient à répandre les lumières, ne pourrait-on pas, par exemple, de temps en temps, recourir, comme le font les salutistes, au procédé de la réclame lumineuse pour rappeler aux noctambules de belles pensées ou bien quelques faits historiques et scientifiques. Pourquoi pas? On pourrait aussi organiser dans toutes les villes des bureaux encyclopédiques où les curieux trouveraient tous les renseignements qu'ils désirent. Enfin, si l'on parvenait à éveiller la curiosité des écoliers, à leur donner le goût de l'étude, on pourrait leur remettre au moment des adieux de nombreux petits livres minces, légers, portatifs, dans chacun desquels une question serait exposée avec soin. Un soir, après une conférence dans laquelle j'avais dit du mal de notre pédagogie traditionnelle, une vieille institutrice m'a dit. Mais, monsieur, il y a pourtant des noms qui sont trop importants pour qu'on les ignore. Par exemple, nous ne sommes pas absurdes si nous tenons à ce que nos élèves connaissent le Brahmapoutre que vous avez nommé. Mademoiselle, je ne demande pas qu'on supprime tous les noms. Je ne sais pas si le Brahmapoutre occupe une grande place dans vos pensées. Mais je vous accorde ceci. Oui, il y a des choses très importantes que tous les enfants doivent connaître. Ce sont des choses dont l'école ne s'occupe jamais. Car le temps dont elle dispose est très limité et elle doit nécessairement laisser des lacunes dans le savoir de ses élèves. Qu'est-ce qui ne peut pas être remis à plus tard ? Voilà la vraie question. Pour juger équitablement la besogne qu'accomplit le pédagogue, il faut songer aussi à celle qu'il néglige. Nous en reparlerons. Le pédagogue est un spécialiste. Considérez ce menuisier qui donne quelques conseils à son apprenti. Il peut, sans inconvénient, lui dire « Regarde et applique-toi à faire comme je fais. » Les procédés qu'il emploie avec succès, ses tours de main, il peut les enseigner tels quels. À l'ordinaire, il s'agira seulement de quelques gestes à reproduire. Et c'est avec profit que le débutant maladroit, durant plusieurs années, pourra regarder son maître comme une espèce à copier. Mais le pédagogue est un spécialiste d'une espèce particulière. Il doit former des élèves qui exerceront par la suite des professions très différentes de la sienne. En mettant sur eux sa bonne empreinte, saura-t-il être suffisamment discret ? Nous ne pouvons pas nous poser cette question sans un peu d'inquiétude. Car, fait essentiel, l'éducateur public a pour élèves des enfants, des élèves très jeunes, dont le devoir réglementaire est d'obéir. Et d'ailleurs, ceux-ci ne sont pas capables de reconnaître si le régime auquel on les soumet sera pour eux fortifiant ou non. Tâche difficile. Être pédagogue et ne pas voir dans les dociles petits ignorants auxquels on communique sa science de futurs pédagogues. Être le maître et se laisser arrêter sans irritation par un gamin qui ne veut pas connaître la vérité. Il serait difficile de le nier. Les pédagogues accordent parfois une importance exagérée à des choses qui n'en ont aucune pour le reste des mortels. Et cela s'explique. D'abord, quelle que soit la qualité de leur science, sa valeur commerciale est certaine. Leur science est enseignable. Ils le savent par expérience. Les personnes instruites peuvent gagner leur vie en donnant des leçons. Et ainsi, parce que leur savoir constitue, pour eux, un instrument d'une utilité réelle, ils sont enclins à lui attribuer une valeur beaucoup trop générale. D'ailleurs, en répandant dans les publics leur culture spéciale, vernis essentiellement communicable, ils en ont fait la culture générale et ils en ont augmenté le prestige. Ajoutons que, pour donner du prix à la science la plus vaine, il suffit de la rendre obligatoire pour ceux qui se présentent devant les jurys dispensateurs de diplômes. Je viens de signaler une illusion dont sont victimes ceux qui enseignent. En voici une autre. Un professeur accorde naturellement une grande valeur éducative à une discipline dont il a retiré lui-même un grand profit. Cela est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'écoles secondaires, un même élève peut avoir jusqu'à 10 maîtres différents, des maîtres spéciaux. Chacun de ceux-ci est devenu sensible à la beauté des choses qu'il étudie depuis longtemps, qu'il voit avec une grande netteté et autour desquelles son esprit se meut avec aisance. Quand il les montre à ses élèves, ne jouit-il pas de sa propre virtuosité? Lorsque mes équations me conduisent à une formule simple et élégante, je ne puis m'empêcher de dire à mes jeunes auditeurs « Regardez-moi ça, n'est-ce pas beau ?» Or, n'est-ce pas le maître de français, le maître d'histoire, le maître de physique et tous les autres ont aussi souvent que moi l'occasion de s'émerveiller. Et puis, peut-être s'écoute-t-on parler avec plaisir lorsqu'on exprime facilement, en termes précis, des vérités incontestables. Nos élèves sont dociles, ils doivent être polis, ils ont l'air de nous suivre, nous continuons. Et si l'un d'eux regarde furtivement sa montre, il a tort. Le malheur des maîtres d'école est de ne jamais trouver parmi leurs élèves un contradicteur ayant de l'autorité. Continuons. Comme vous le supposez, les écoliers qui apprennent avec zèle leur géographie, leur histoire, leurs règles de grammaire ou d'arithmétique se trouvent en nombre plus grand parmi les premiers élèves d'une classe que parmi les derniers. Mais parmi les mauvais élèves, les bons dessinateurs, les bons observateurs et les bons gymnastes, par exemple, ne sont pas plus rares que parmi les autres. Au contraire, pourrait-on dire fréquemment. Or, est-il bien sûr qu'un enfant qui dessine avec talent soit inférieur à son camarade qui, chaque soir, apprend docilement sa leçon pour le lendemain? Je veux dire que les pédagogues, inconsciemment, sont portés à donner les meilleurs rangs aux élèves qu'ils jugent dignes de leur succéder. En d'autres termes, les écoliers qui, plus tard, feront profession d'enseigner retirent de plus grands avantages que leurs camarades des innombrables leçons qu'on impose à tous les enfants indifféremment. Tenez, le jeune bachelier qui, au moment où il va vivre de la vie des étudiants, voudrait avoir un peu d'argent de poche. Comment s'en procurera-t-il ? Il cherchera des collégiens arriérés auxquels il donnera des leçons. Il serait presque toujours incapable de faire autre chose. Involontairement, ses maîtres lui ont enseigné leur propre métier. Le maître constitue pour l'écolier un modèle d'une espèce très particulière. Le pédagogue que l'enfant aura eu sous les yeux pendant des milliers d'heures n'est ni un artiste, ni un inventeur, ni un artisan attaché à sa besogne. Ce n'est pas un homme qui cherche, qui fait des hypothèses, qui se trompe, qui se remet à sa tâche avec ardeur et dont l'activité serait contagieuse. C'est un monsieur instruit qui s'adresse à un public de jeunes ignorants. S'il lui arrive de commettre une erreur, ses élèves échange des sourires. C'est quelqu'un qui connaît d'avance la réponse à chacune des questions réglementaires qu'il aborde dans ses leçons. Et quelle que soit la finesse de sa nature, il lui est difficile de ne pas le laisser voir, car depuis 15 ou 20 ans, il enseigne les mêmes choses. Ce ne sont donc pas des efforts. Ce n'est pas une activité créatrice que l'on propose à l'imitation de l'enfant quand il est à l'école. S'il imite ses maîtres, c'est en leur empruntant leur formule définitive. Et voilà pourquoi, à notre époque, l'ignorant est si fréquemment la caricature du savant. Quand on attachera moins de prix à la docilité intellectuelle des écoliers, on leur donnera plus d'entraîneurs et moins de professeurs. À en juger par les programmes scolaires et par les manuels en usage, On veut mettre tout de suite dans l'esprit du débutant l'ordre définitif qu'il y a dans l'esprit des professionnels de la pédagogie. Un spécialiste peut tenir à délimiter nettement le champ de son activité. Il existe des professeurs qui tracent avec un soin jaloux une frontière entre le domaine qui leur est réservé et ceux que cultivent leurs collègues. Et d'ailleurs, quand nous possédons des notions suffisamment nombreuses, elles se groupent tout naturellement dans notre esprit en catégories distinctes. Mais l'école veut d'avance mettre de l'ordre dans les connaissances que l'enfant possédera peut-être un jour, avant de connaître la signification claire des mots, histoire, géographie. Il sait que la géographie est une chose et que l'histoire en est une autre. La distinction que l'on fait entre ces deux enseignements n'a pourtant rien de nécessaire, car lorsqu'il s'agit d'expliquer la conduite d'un peuple ou d'un individu, l'importance du milieu n'est pas moins grande que celle du moment. L'écolier sait tout de suite aussi qu'il y aura des leçons nettement séparées des autres. On lui apprendra à se servir adroitement de sa langue maternelle. C'est dans des moments où il n'a rien à dire qu'on lui enseigne les règles de la grammaire. Aussi, sa langue qu'il étudie ainsi à l'écart ne lui apparaît-elle pas comme un moyen d'expression dans l'emploi duquel il doit devenir plus habile? En somme, l'écolier apprend mieux à enseigner sa langue maternelle qu'à la parler avec aisance. Car ceci supposerait un tout autre mode d'entraînement que cela. Avant d'avoir reconnu dans le discours des familles de mots, il connaît ses vocables, pronoms, verbes, adjectifs, etc. Il sait combien il y a d'espèces de pronoms, combien d'espèces de verbes et comment ils se nomment. Et dans quelques années, il pourra transmettre à de plus ignorants que lui ce savoir de qualité garantie. Pour le pédagogue, pour celui dont la besogne est d'exposer les résultats de la science, les classifications, les cadres, les subdivisions et les étiquettes ont une grande utilité. Mais les cadres constituent une nourriture bien pauvre pour des esprits que les sensations et les images n'ont pas encore enrichis. Dans notre souvenir, le domaine de la science scolaire où les cicérones de la pédagogie ont conduit notre petite troupe se compose de régions très vagues, séparées par des frontières très nettes. Notre mémoire a conservé les titres des chapitres, écrits dans tous les manuels en caractères gras. La mémoire de l'écolier ne conserve parfois rien de plus. Je le répète, la profession de pédagogue est la seule qui puisse exercer, sans faire un apprentissage nouveau, les jeunes gens qui sont restés longtemps sur les bancs de l'école pour se cultiver. Le fait est là, le nombre des personnes dont le métier est de donner des leçons augmente rapidement. Parmi elles, il faut ranger tous les prêcheurs, qui enseignent par le moyen de la conférence, du journal ou du livre. Vous connaissez ces titres, ce que toute femme de 45 ans devrait savoir. Le tour des octogénaires viendra, ils n'échapperont pas aux pédagogues. Ni la jeune mère allaitant son enfant. On se plaint déjà beaucoup des jeunes mères. Elles ne savent pas aimer méthodiquement. Ne va-t-on pas bientôt organiser pour elles des cours obligatoires où on leur montrera comment on prépare les petits-enfants à être des écoliers dociles. Oui, il est à craindre que la manie enseignante ne s'exerce désormais avec une indiscrétion toujours plus grande. J'ai sous les yeux le prospectus d'un honorable citoyen qui m'apprend qu'il reçoit chez lui, de 4h à 7h, de jeunes collégiens dont il surveille le travail et dont il stimule le zèle. Il y a donc, de petits garçons de 10 ou 12 ans qui, après les 6 ou 7 leçons qu'ils ont déjà reçues, vont s'enfermer dans la salle à manger de cet honnête père de famille, lequel, pour un prix très modique, leur rappelle, une fois de plus, les règles de grammaire qu'il ne faut pas enfreindre. Et c'est peut-être pendant les belles journées du mois de juin. Ah, les premières fleurs, qu'elles sont parfumées. On dit que ce sont les besoins de la société moderne qui expliquent le nombre toujours croissant des écoles. Distinguons. Ce sont les écoles professionnelles qui fournissent à l'industrie les praticiens dont elle a besoin. Mais précisément, parce qu'il existe des écoles, de plus en plus nombreuses, qui se chargent de former des spécialistes de toutes sortes, la première école, celle dont je parle, pourrait donner à ses élèves une éducation généreuse. Elle pourrait développer dans l'esprit et dans le corps de chacun d'eux une adresse et une force dont il jouirait lui-même. Je dis que c'est le besoin d'enseigner éprouvé par tous ces pseudo-pédagogues sans emploi que l'école forme sans le vouloir, qui explique le nombre toujours plus grand des leçons qu'on propose aux adultes et qu'on impose aux enfants. Je veux bien que ce besoin-là soit encore rangé par les respectables besoins de la société moderne. Mais il y en a un autre que l'on contrarie décidément trop. C'est le besoin éternel, ressenti par tous les êtres jeunes, d'aller jouer au bord de l'eau, dans la campagne ou n'importe où, avec les bons amis qui leur ressemblent. Le vernis scolaire et la culture générale. Ainsi, ceux qui ont pour tâche de donner aux écoliers une culture générale ont eux-mêmes une culture très spéciale. La culture superficielle que donne l'école peut être dite générale parce que c'est celle-là qui a été généralisée. L'école aurait pu tout aussi bien en généraliser une autre. Cette culture scolaire pourrait être, par exemple, un peu plus scientifique et un peu moins littéraire. Consultez une personne cultivée de l'espèce ordinaire. Elle connaîtra sûrement le nom de Madame de Sévigné, et elle pourra vous dire que cette dame vivait au XVIIe siècle et qu'elle a écrit des lettres charmantes. Ce sera d'ailleurs à peu près tout. Mais demandez-lui en quoi consiste l'induction électrique. Elle vous avouera sans embarras son ignorance sur ce point un peu spécial. Et pourtant, cette personne instruite aura aussi des idées beaucoup plus nettes sur l'orthographe des mots nu, demi et feu que sur les mouvements des astres qui composent notre système solaire. Or, ceci est-il vraiment moins général et moins beau que cela? Le propre des gens cultivés dont je parle ici, de ceux qui doivent toute leur culture à l'école, c'est qu'ils disposent d'un vieux stock d'anecdotes, de métaphores, de noms célèbres, de clichés, de souvenirs mythologiques et d'expressions classiques qui leur permettent de se comprendre à demi-mot. Ils comprennent les allusions fines, toujours les mêmes, qui émaillent la conversation de leurs semblables, et les articles de nombreux journalistes. Quand l'occasion s'en présente, ils savent dire « nourri dans le sérail ». Et il y a une trentaine d'autres vers fameux qu'ils citent au bon moment. Lorsque, devant eux, un ignorant parle avec intérêt de quelque événement récent, ils lui apprennent avec une satisfaction réelle que cela s'est déjà passé à Rome il y a 2000 ans. Et ils sont capables d'ajouter en latin « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Il s'est tout de même produit dans le monde, durant ces 20 derniers siècles, quelques petits changements. Mais on n'habitue pas les écoliers à se poser des problèmes nouveaux. Inlassablement, on les met en mesure de répondre à des questions prévues. Et la culture scolaire est un vernis facilement reconnaissable que promènent dans le monde tous ceux qui, dans leur jeunesse, ont consacré des milliers d'heures à préparer des examens. Quand ils sont assis sur les bancs de l'école, beaucoup de patients tournent fréquemment la tête du côté de la fenêtre. Cela gêne le pédagogue dont le travail est essentiellement un travail de tête. Alors, l'application du vernis se fait mal. D'ailleurs, chez les gens instruits, au bout d'un temps plus ou moins long, le vernis scolaire tombe par endroits, ce qui produit ces regrettables lacunes qui, chaque année, font échouer tant de cancres devant les jurys d'examen. Les personnes décentes mettent le plus grand soin à dissimuler leurs lacunes, qui permettent aux premiers venus d'apercevoir la nudité de leur esprit. La question des lacunes est capitale. Notre nudité est d'autant plus choquante que nous sommes moins gracieux et moins beaux. En rappelant constamment à l'écolier ses défauts, en lui enlevant bientôt sa naïveté et sa grâce, on l'intimide, et il n'osera plus se montrer tel qu'il est. La pauvreté de son intelligence, trop longtemps paralysée, et la gaucherie de sa pensée seront moins apparentes si l'on a enrichi son esprit des ornements décents qui sont universellement portés. J'ai cherché le mot « cultiver » dans mon Larousse, et j'ai trouvé cette définition. Faire les travaux propres à rendre la terre fertile. Hélas, l'école ne rend pas fertiles les esprits qu'elle cultive. Pour cela, il faudrait les remuer plus profondément et leur donner des aliments meilleurs. Le fait est que cette culture très superficielle à laquelle on tient tant a été mise à la mode. Ceux qui en sont dépourvus s'exposent à quelques sourires, comme par exemple un monsieur qui aurait oublié de mettre sa cravate. Eh bien, soyons courageux. Essayons de lancer une mode nouvelle. Lorsque, dans un salon, quelqu'un nommera Pépin le Bref, ne craignons pas de dire avec simplicité « Quel est ce personnage ? Je ne le connais pas. » Et demandons des renseignements précis et nombreux aux personnes que notre ignorance étonnera. Elles n'emmèneront pas large. Grâce aux connaissances étendues qu'on nous a données, nous pouvons faire croire aux autres que nous sommes instruits. Mais pour cela, on nous a pris dans notre jeunesse un temps considérable. Notre pensée serait beaucoup moins pauvre si l'on nous avait dit « Il y a dans la nature et dans l'œuvre des hommes trop de belles choses pour que nous puissions les mentionner toutes. » Sur la plupart des questions, notre ignorance sera absolue. Mais nous nous arrêterons longtemps devant quelques spectacles captivants qui suffiront pour nous faire comprendre la richesse du monde et pour nous suggérer toutes sortes de problèmes, simples ou trop complexes. Si nous distinguions toujours honnêtement les sujets que nous avons étudiés avec soin de ceux dont notre ignorance nous interdit de parler, ne serions-nous pas aussi cultivés que Madame Bolomé, qui connaît le titre de l'un des romans de Mademoiselle de Scudéry.